c'est la poule.
J'ai rien vu, rien entendu, j'ai rien.
Eh oui, c'est les jingles qui partent, on n'a toujours pas le bon réglage, mais ça va venir, ça va venir. On fera ça après. Alors, de quoi on parle cette semaine ?
Ben, on va parler de l'avancée du projet Cigéo à Bure.
Ah, et moi je vais vous parler de l'élite de la police française.
Je m'attends au mieux, au meilleur. Et on se lira la chronique high-tech comme tous les mois dans CQFD.
Ok, et puis après on fera peut-être un tour par Courant Alternatif qui est sorti ce mois-ci et sur le salon Millipol, quoi. Voilà. Et puis tout de suite quoi, pas d'agenda ?
Non, malheureusement, pas cette semaine.
Rien à vous annoncer. Eh ben, on part sur la police. Allez, c'est parti.
J'ai rien vu, rien entendu. 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 J'ai rien vu, rien entendu.
Alors, comme je vous disais, l'élite de la police française. C'est un article de Contre-Attaque. Police, une soirée qui finit à coups de hachette. Après le livre nazi et la torture dans les écoles de police, baston à la hache lors d'une soirée alcoolisée entre flics. Paris, mardi 5 décembre, une soirée est organisée dans les locaux d'une caserne des compagnies d'intervention de la capitale. Un pot de départ pour fêter la mutation d'un agent de la compagnie qui quitte ses fonctions pour rejoindre la CRS 8. En juillet 2021, le ministre de l'Intérieur annonce en grande pompe la création d'une nouvelle unité de CRS. La CRS 8. Gérald Darmanin la présente comme une unité d'élite, spécialisée dans le maintien de l'ordre et la lutte contre les violences urbaines. En réalité, ce n'est qu'un nouvel escadron ultra-violent supplémentaire créé par le gouvernement pour mater la population. À Mayotte, dans les quartiers populaires ou encore lors des manifestations contre la réforme des retraites, partout où il faut terroriser et rendre docile, vous trouverez ces policiers vêtus de noir, cagoulés, gilets tactiques sur le buste, casque anti-émeute et armes de guerre à la main pour répandre la violence contre-insurrectionnelle. Fuite en avant sécuritaire sans limite. Revenons donc au pot de départ. Les flics commencent la soirée et vont boire des quantités énormes d'alcool fort toute la nuit. Pendant la petite sauterie de la compagnie d'intervention, le policier sur le départ pour la CRS 8 se voit offrir deux hachettes par ses collègues, qu'il collectionne. Ces agents assermentés de l'État ont l'idée de génie de simuler un combat de hache, une mise en scène type médiévale. Mais il y a un problème, les agents sont bourrés comme des gros lardons. L'un d'eux frappe le futur CRS d'élite à l'abdomen et tranche littéralement dans le gras du policier. Vers 6h du matin, c'est la panique à la direction de l'ordre public, la DOPC. Elle apprend que l'agent est gravement blessé, avec une plaie béante de 10 cm de profondeur, nécessitant l'intervention du SAMU pour transporter l'homme en urgence absolue à l'hôpital. La blessure nécessitera une opération chirurgicale et 35 points de suture. Quand les gradés se rendent à la caserne, ils constatent les dégâts. Bouteilles d'alcool sorties hâtivement hors des locaux, du mobilier et des véhicules dégradés, ainsi que les taches de sang encore visibles, nettoyées à l'arrache. Le 30 novembre, une vidéo tournée dans une école de police montrait des gradés torturer des élèves policiers en leur infligeant un simulacre de noyade et d'étouffement en les frappant. Quelques semaines plus tôt, dans la même école de police, un futur policier paradait avec le livre d'Hitler Mein Kampf avant de valider son cursus avec les félicitations du sous-préfet. Il faut bien se rendre compte de la gravité de la situation. Ces personnes radicalisées et inféodées aux idées néofascistes sont armées avec la bienveillance de l'État. Ces individus sont des dangers publics. Ici, il s'agit en principe de l'élite de la police nationale. Alors imaginez dans les autres services. Voilà. Bon, on les remercie. C'est toujours un peu comique, leur petite fête. Hein. Allez, un peu de musique. Voilà, on s'écoutait Paranoia Big News.
Et moi, j'enchaîne avec une petite brève sur l'avancée des travaux de Cigéo, le projet de poubelle nucléaire dans la Meuse. Donc, ça s'appelle je l'ai trouvé sur le site burburbur.info. Vers les expropriations, les fouilles archéologiques et un nouveau prototype en test en Haute-Marne. On a appris récemment que l'ANDRA compte lancer dès début janvier les demandes d'autorisation de fouilles archéologiques pour le projet de poubelle nucléaire Cigéo et les expropriations pour acquérir les terrains que leurs propriétaires lui refusent. Ces mesures font suite à la déclaration d'utilité publique, la DAC, signée en juillet 2022 par Elisabeth Borne, et contre laquelle le dernier recours juridique vient d'être rejeté. Les constructions et destructions dites « aménagement préalable » pourraient ainsi s'accélérer. Expropriation, déforestation et artificialisation des terres forestières et agricoles. Construction d'un transformateur électrique, déviation de routes départementales, construction et réhabilitation de dizaines de kilomètres de voies ferrées pour l'acheminement des matériaux de construction et les convois de déchets radioactifs. Concernant les expropriations, celles-ci pourraient durer 20 mois à partir de janvier 2024, selon le calendrier de l'ANDRA. De nombreuses propriétés agricoles et d'habitations sont menacées à court terme. Parmi elles, l'ancienne gare de Luméville et le long du tracé du futur chemin de fer, l'un des lieux d'organisation de la lutte contre Cigéo dans les environs de Bure. Concernant les fouilles archéologiques et les investigations géotechniques, 608 forages doivent être creusés, dont 3 en grande profondeur, 4 plateformes de 2500 m² installées, entre 300 et 400 puits de sondage, et 200 piézomètres mesurant la pression de l'eau dans les nappes phréatiques. Aussi, en parallèle des essais en cours concernant le prototype de funiculaire pour la descenderie portée par Poma, à Froncle, dans le 52, l'ANDRA lance depuis novembre une collaboration avec les entreprises Ferry Capitaine et Cegelec-SEM à Vecville, site de forge de Bussy près de Joinville dans le 52, pour un contrat à 3 millions d'euros dans le but de tester les systèmes d'accostage entre les hottes de transport et la porte d'entrée des galeries. Voilà, c'est assez technique. Pour rappel, la DUP n'autorise pas le centre d'enfouissement Cigéo lui-même, ce qui veut dire que rien n'est perdu. Tout va quand même aller très vite, car la demande d'autorisation de construire la DAC, déposée en janvier 2023, pourrait être validée dans ces 3 prochaines années, menant à une probable enquête publique en 2026 et le début des travaux pour le chantier Cigéo en 2027. Les travaux préalables imminents, transformateurs, voies ferrées, déforestation, routes et les expropriations qui vont avec nous signalent que c'est le moment où Jabé ne nous retrouver et de nous organiser pour occuper le territoire et empêcher massivement et sur tous ses fronts la poubelle nucléaire. Tout d'abord, une série de réunions publiques organisées par l'ANDRA devrait se tenir en janvier au sujet des expropriations et des fouilles archéologiques. On vous en dit plus bientôt. Donc, on relaiera et on vous en dira plus bientôt également. Voilà, un peu de musique.
on s'est écouté, Stress Position par Harsh Reality. Et du coup, je vais vous lire maintenant deux petits résumés d'articles de chez Courant Alternatif, la rubrique Big Brother. Alors, on commence. Vidéo algorithmique. La CNIL devrait contrôler le ministère de l'Intérieur. La Commission nationale de l'informatique et des libertés a annoncé le 15 novembre le lancement d'un contrôle du ministère de l'Intérieur portant sur son utilisation d'un logiciel d'analyse de la vidéosurveillance. La veille, le site Disclose révélait, en se fondant sur des documents internes à la police, que cette dernière utilisait depuis 2015 un logiciel fourni par l'entreprise israélienne Briefcam. Il permet notamment de reconnaître automatiquement sur les images de vidéosurveillance un véhicule grâce à sa plaque d'immatriculation ou une personne sur la base de ses vêtements ou de la reconnaissance faciale. Pour autant, l'utilisation par les forces de l'ordre de ce logiciel n'a même pas été déclarée à la CNIL selon Disclose. De surcroît, toujours d'après le média, les travaux d'évaluation de son impact sur la protection des données, pourtant obligatoires, n'ont pas été réalisés. Certains services ont l'outil Briefcam, mais celui-ci n'étant pas déclaré à la CNIL, il semble préférable de ne pas en parler, reconnaissait sous couvert d'anonymat un cadre policier cité par Disclose. Briefcam n'est pas le seul industriel travaillant avec les forces de l'ordre françaises. Comme l'écrivait Le Monde dès 2019, la police toulousaine a collaboré avec la société australienne Brainchip pour analyser les images de vidéosurveillance dans le cadre d'enquêtes judiciaires. Davantage qu'une simple vidéosurveillance, mais pas tout à fait de la reconnaissance faciale. Ce type de prestation, reconnaître un individu sur la base de sa tenue par exemple, est longtemps resté dans un flou juridique que la CNIL a de manière régulière réclamé de préciser. Avec ce contrôle, l'autorité de protection des données ne pourra peut-être faire la lumière sur ces forces de l'ordre, sur ce que les forces de l'ordre ont fait dans cette zone grise. Voilà. Bon, on peut toujours espérer, hein, mais contrôle. De toute façon, ils légalisent une fois qu'ils ont mis en place, quoi. Voilà. Et donc là, on va s'intéresser maintenant au salon Millipol à Villepinte. Alors, c'était du 14 au 17 novembre. C'est l'événement mondial de la sûreté et de la sécurité intérieure des États. En clair, les fabricants d'armes de différents pays exposent dans toutes leurs armes leur technologie dédiée au maintien de l'ordre et à la sécurité des personnes et des biens qu'ils développent dans le but de les vendre aux États de la planète. Parmi les exposants et les participants, on retrouve des entreprises comme Alcetex et Nobel Sport, qui fournissent la plupart des armes utilisées par les flics en France, mais aussi une cinquantaine d'entreprises israéliennes. En France, ce marché représente 130 000 emplois et 4 000 entreprises réalisant plus de 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont plus de la moitié à l'export. Ce marché est en pleine croissance et croît trois fois plus vite que l'économie des pays. Au niveau mondial, le marché de la sécurité représentait 600 milliards d'euros en 2020. La perspective pour 2029 serait de 1000 milliards d'euros. Depuis plusieurs années, le salon inclut une partie conférence qui a pour but de réunir des experts français et internationaux pour échanger sur les enjeux de sécurité des États. Dans un contexte de mondialisation qui nécessite de réfléchir au sujet de protection des interdépendances, dans le contexte de la tenue des Jeux Olympiques en France en 2024, le gouvernement a souhaité que Millipol axe ses conférences autour de cette thématique. Un rassemblement a lieu mercredi 15, sous une banderole « Stop Arming Israël » devant l'entrée pour imposer un cessez-le-feu et mettre un terme à l'armement du génocide des Gazaouis. À ce jour, nous n'avons pas eu de compte-rendu de cette initiative. Voilà, donc la France organise quand même un beau salon où ils vendent des belles horreurs.
We'll be right back.
Et donc on s'écoutait Gibolin de Petit Chacal. Et maintenant, je vais vous lire la chronique high-tech du CQFD du mois de décembre. C'est écrit par Emilien Bernard. Alexa, traduis-moi Proust en ouzbek. Mois après mois, high-tech défonce la technologie et ses 20 mirages. 13e épisode dédié à la grande terreur des traducteurs et amateurs de littérature, l'invasion de l'édition par divers avatars de l'intelligence artificielle. S'il y a un champ professionnel qui serre les fesses face au développement des outils dérivés de l'intelligence artificielle, c'est bien celui des traducteurs. Déjà en novembre 2022, les assises de la profession sonnaient l'alarme, focalisant leur débat sur la survie menacée des métiers de la traduction. Depuis, tribunes et appels à légiférer se succèdent dans une relative indifférence. Tant de questions plus vastes sont soulevées par la dite intelligence. Par exemple, où va-t-elle tous nous mettre à mort ? Youpi youpi. Et pourtant, outre la menace pesant sur les jobs des concernés, déjà forts et saurés, les outils tels que ChatGPT ou Deep font tache d'huile dans nos paysages culturels, posant une question quasiment existentielle. Que ferons-nous quand ces outils seront meilleurs que l'homme dans 99% des cas ? Moi-même traducteur, ça paye mieux que CQFD. Je m'interdis pour l'instant, ce qu'en font beaucoup de consoeurs et confrères, passer une première fois le texte sur Deep, puis retravailler le résultat, ce qui donnerait un gain de productivité non négligeable. Parce que je suis un héros ? Non. Parce que l'ouvrage sur lequel je bosse à l'heure actuelle est suffisamment retors et azimuté. Mots inventés, poèmes loufoques, style élégiaque, pour que ces outils s'y cassent les dents. Mais nul doute que le dilemme se poserait si je devais traduire aujourd'hui des livres plus simples sur lesquels j'ai bossé par le passé. Après tout, si le mec qui traduit Guillaume Musso en anglais n'utilise pas Deep, c'est un fichu crétin. Je cite Musso car son style fade est l'équivalent littéraire du tofu. A l'inverse, c'est bien dans le bastion de la littérature de haute volée que résident les espoirs des traducteurs humains. À aucun moment, la machine ne retourne et ne creuse un texte pour en comprendre l'ironie, la gravité, l'humour grinçant, explique ainsi Olivier Manoni, spécialiste de la langue de Goethe. Elle en est incapable, tout comme elle est incapable de reconnaître un style, une patte, un talent. Pas faux. Rappelons cependant que les progrès de ces outils se basent sur une aspiration de données toujours plus poussée et que les prochaines années verront exploser des cataclysmes de type ChatGPT démultipliés. Que le monde de l'édition est globalement un repère de rapaces où toute possibilité de raboter les coups est saisie goulûment. Et que si le phénomène n'en est qu'à ses débuts, il est déjà bien enclenché chez nombre de professionnels, traducteurs comme éditeurs. Conséquence, une uniformation progressive du contenu du continent livresque. Les aspirateurs à données se nourrissant, au fil du temps, de leurs propres excréments. Miam. Bien sûr, il y aura maintien de petites niches élitistes, militantes ou germanopratines de mon cul. En clair, à court terme, tout n'aura pas goût de Musso. Mais l'avancée de la fadeur globale semble inéluctable. Dans cette débâcle, un espoir. Il y aura toujours des textes inaccessibles aux machines, à l'instar de Finnegan's Wake, de James Joyce, texte le plus imbitable du monde. Tiens, intelligence artificielle, traduis-moi ce terme utilisé par l'écrivain irlandais pour caractériser un bruit proche du tonnerre. Bah, ouais, je vais pas vous le lire, mais c'est intraduisible. Ben voilà, c'était la chronique high-tech ce mois-ci sur les traductions. Et il s'est tiré de CQFD. Voilà, j'ai prononcé Deep, tout le logiciel là, mais ça devait se prononcer, ça s'écrit D2EPL. Alors c'est peut-être DeepL ou je ne sais quoi. Voilà.
Eh ben, on va se quitter pour cette semaine, hein, et puis voilà, à la semaine prochaine.
On vous laisse en musique, en attendant le Big Bang, et à la semaine prochaine, prenez soin de vous.
brains, drop the bass.